plus ce message dans ton app, dans ta radio, c'est Marceau. Marceau le midi.
Midi pile poil. Je sais pas ce que je ressens présentement. Je me suis posé une multitude de questions dans les dernières minutes parce que j'ai vu la complicité qu'il y avait entre Antonin Iaccarini qui est en studio et Pascal CV.
Tu savais pas?
Dans un party de filles, ces deux-là, ça doit jacasser pas pire.
Ben, hein? Voyons donc.
Ben non, ben, tu nous on se fait nos parties à deux, là. C'est, oui? C'est régulier quand même qu'on s'offre une petite date.
Puis vous parlez de quoi?
D'hommes.
Les maudits hommes, mettons.
Les maudits hommes. Le point 1. Politique, ouais. Nos projets, pas juste les hommes.
Point 2, projet. Ouais. Point 3, les hommes.
OK. Puis ça, vous faites ça régulièrement.
Ouais, tu veux-tu venir ou quoi?
Non.
Tu veux-tu qu'on t'invite?
Non, non, j'ai un rave.
Ah oui, faut-tu sortir les ordures?
J'ai d'autres choses à faire. Salut, Antonine.
Salut.
On est content que tu sois là. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? T'as-tu fait quelque chose qui en valait la peine?
Ah oui. Nous, on a survécu, moi puis mon chum, à une visite chez IKEA.
Ça allait trop bien de vous. Vous avez testé l'IKEA.
Ouais, on aime ça se mettre en danger. Ça met du piquant.
T'as-tu acheté des chandelles?
Non. Je n'avais déjà encore beaucoup.
Ça, on les achète en batch.
Mais tu sais, dans le temps où je montais régulièrement à Montréal, j'arrêtais tout le temps au IKEA, puis les gens avec qui j'étais, ils achetaient tout le temps des chandelles.
Ben oui, mais les filles, notamment, on a une maladie avec les chandelles.
Mais c'était pas des chandelles qui sentaient quelque chose dans le temps. C'était des petites chandelles rondes ou des grosses chandelles.
Oui, mais elles sont pas chères.
Non, c'est ça.
Tu sais, dans la petite section cuisine, Pascal est en train de s'étouffer de rire. Hein? J'aimerais ça que les gens à la maison, vous la voyez présentement.
C'est tellement vrai. C'est moi, je me suis acheté une assiette. Mais c'est acheté une assiette qui se posait être un plat de service pour me faire un genre de bougeoir. C'est mon centre de table de salon, mais c'est vraiment une assiette de service avec comme presque des cierges. Là, il y en a un qui est énorme au IKEA. Là, tu l'achètes, il te coûte 26$ tellement qu'il est gros. Puis là, je suis allée en dégradé d'auteur.
Wow.
Puis il y a ça, puis il y a un dimanche où moi, je m'allume tout le temps une chandelle le dimanche. C'est tellement lourd. Je m'allume tout le temps une chandelle le dimanche. Puis je suis allée souper avec un de mes amis récemment, puis j'ai traîné ma chandelle, puis il a dit « T'es-tu sérieux? »
Wow.
J'ai dit « Oui. » Il dit « OK. » Puis il n'a plus jamais posé de question.
Ouais. Faut accepter que t'es spécial quand on est ton ami.
Mais attends, là, ça, c'est répandu, là. J'ai beaucoup d'amis que c'est une grande passion, les chandelles. Ouais. Par contre, j'ai une question pour Pascal. Est-ce que t'as un set de chandelles dans ta salle de bain que personne n'a le droit d'allumer?
Non.
Tu sais, qui prennent la poussière, là?
Ah, oh, parce qu'elle est trop belle ou elle sent trop bon. Non, j'ai pas ça.
OK.
C'est
non.
Des chandelles décoratives.
Oh, oui. Oh mon Dieu. Ça, mais je savais pas ça de toi.
Oui, non. Puis j'en ai même avec une manette, là. Qui son programme.
What? OK, ça va loin, là.
Pour ouvrir toujours. Non, mais c'est beau, là. Ça fait vraiment une belle ambiance. Pas cheap, pantoute.
Fais-tu du vaudou chez vous?
Non. Seulement avec ta petite poupée.
Fait que tu as été faire un tour au IKEA. T'as-tu acheté de quoi?
Oui, on a acheté une nouvelle bibliothèque. C'est vraiment intéressant là, pour les gens qui écoutent.
Vous avez passé au travers de cet achat-là.
Oui. Fait que le stationnement, ça a commencé dans le stationnement du IKEA, le défi conjugal. Déjà, c'était très difficile.
On vit toute la même affaire.
On n'a pas arrêté l'auto que le défi commence.
Puis en plus, on a amené notre plus jeune avec nous, la question d'augmenter encore le niveau de difficulté.
Ouf.
Puis on a passé à travers tout ça. On a passé à travers le montage de la bibliothèque.
L'avez-vous fait à deux?
Ben, on sépare les tâches quand même. On n'est pas fous.
OK, c'était quoi les tâches? Elle dit, on a passé à travers le montage de la bibliothèque.
Ben, mon chum qui sacre en montant la bibliothèque.
On est tous comme ça.
Puis moi, je fais tous les petits trucs autour. Là. Je ramasse les boîtes. J'arrête pas de passer la petite balayeuse autour pour le gosser un peu.
C'est-tu la seule phrase que tu dois pas dire à ton chum pendant qu'il est en train de gosser après le plan puis sa bibliothèque?
Vas-y donc.
Tu veux que j'appelle mon père?
Oh!
Mais pourquoi ça vous dérange autant, ça?
Ne jamais dire ça.
Pourquoi ça vous dérange
c'est
autant?
C'est émasculant un peu.
Parce qu'on n'est pas poche. C'est juste que le plan, il a été dessiné par un ingénieur qui avait 3 ans et demi. OK? C'est dessiné à main levée, puis
c'est
n'importe quoi.
C'est la chose la plus facile du monde, les plans IKEA.
Ouais, le classique chez nous, c'est que mon chum commence à monter le meuble.
Ouais.
Puis rendu à l'étape 14, se rend compte qu'il a posé une pièce à l'envers. L'étape 2.
Puis là, et faut que là, tu ça tournes, sacre. Puis faut que tu le fasses délicatement, sinon tu brises ton meuble.
Oui, parce qu'en plus, c'est de la mélamine un peu cheapo, là, on va se dire la vérité. Là, faut pas que tu recommences 10 fois. Là. Mais ça a bien été. Puis j'aimerais quand même saluer son dévouement parce qu'on avait acheté 4 meubles. Pour
il a fait ça? Ah, ça prend toute la journée.
Oui, c'est ça. Fait que ça a bien été, donc
les livres sont classés maintenant?
Oui, ça, c'était ma tâche à moi après.
Okay. Est-ce que lui, Charles, quand tu fais ta tâche ou il n'a pas le droit?
Il n'a pas le droit, mais il le fait quand même.
Ben ouais, c'est ça. Mais c'est un bon truc. Si vous voulez savoir si votre couple fonctionne, allez au IGA, puis montez...
Au IGA, les
meubles, oui. Au IKEA, non, puis montez les meubles. Je suis en train de faire deux affaires en même temps dans ma tête. Hey, pourquoi on parle avec Antonine? En fin de semaine, il y a eu une conférence de presse. Je ne sais pas pourquoi on a fait cette conférence de presse-là en fin de semaine. J'imagine que tu vas avoir la réponse. Mais le premier ministre François Legault, qui était avec Sonia Lebel, qui est la présidente du Conseil du Trésor, il y avait Bernard Drinville aussi, qui est ministre de l'Éducation. Ils ont fait le point sur les négociations en vue du renouvellement des conventions collectives en éducation. Pourquoi faire ça un dimanche?
Bon, premièrement, dimanche, c'est pas une mauvaise journée médiatiquement. Parlons communication et stratégie de communication, parce que le soir, le dimanche soir, les gens écoutent la télévision. Il y a des grands rendez-vous télévisuels. Les gens lisent les journaux aussi. Et ça te permet d'être dans les journaux du lundi matin, d'être dans les émissions de radio du lundi, comme on est en train de faire présentement. Fait que ça, c'est régulier. On ne fera pas des points de presse, par exemple, le samedi. C'est pas très bon. Mais le dimanche, ça peut arriver. L'autre raison, ben peut-être, puis je suis pas dans leur tête, mais c'est que c'est pas nécessairement les mêmes journalistes, donc ça te permet de pas être devant les...
Trop challengé par ceux qui te suivent de façon hebdomadaire. Hey, ça, j'ai pas vu ça venir.
Et en même temps, les journalistes qui font du lundi au vendredi...
En même temps, moi, j'ai déjà vu...
Êtes-vous encore passionné de votre métier?
Oui, mais c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a une couple de boss qui ont dit « Hey, point de presse important.
Ben oui.
Peux-tu travailler de façon exceptionnelle pour pouvoir challenger le gouvernement? »
Exactement. Mais tu sais, je dis ça, puis les journalistes de fin de semaine, souvent, c'est des plus jeunes qui veulent se démarquer. Fait que tu sais, ça sera pas nécessairement 100% facile, mais ça peut faire partie de la stratégie.
Okay.
Mais surtout, tu sais, parler de la stratégie sur le fond du message, j'ai trouvé... Parce que le message, dans le fond, c'était de dire, ben, on veut commencer à parler de ce qu'il y a dans les ententes. Hein, parce qu'on en a discuté, vous et moi, à plusieurs reprises des négociations. Puis pendant les votes, le gouvernement était assez silencieux sur ce qu'il y avait dans les ententes pour laisser les votes se faire.
Oui.
Et là, les votes sont terminés. Donc, on peut commencer à parler de ce qu'on veut mettre en place dans le réseau de l'éducation pour améliorer les choses. Ça, on sentait que le gouvernement avait très hâte. Puis l'autre enjeu, c'est que ces ententes-là vont coûter très cher. Donc, on veut commencer à préparer le terrain pour le budget, qui ne sera peut-être pas une distribution de cadeaux comme ça a été dans certaines autres années budgétaires. Donc, on veut dire, écoutez, on a appuyé nos syndicats, on a voulu améliorer le service public, bien, il va y avoir une facture à ça. Et c'est là qu'on a abordé la question du prochain budget qui sera déficitaire. On s'en doutait, là. Il n'y a pas de grosse surprise là. Mais moi, c'est drôle, j'aurais attendu avant de dire ce message-là. J'aurais concentré le point de presse d'hier sur l'éducation, puis vraiment l'objectif d'améliorer notre réseau d'éducation, les conditions de travail des profs, rendre le métier plus attrayant, parce que là, tout est tout le temps tellement négatif qu'on est dans un cercle vicieux. Mais là, on a ouvert sur le budget déficitaire, et c'est comme si on laissait entendre que ben, c'est de la faute des négociations puis des ententes, finalement.
Dans une entente qui était échue depuis plusieurs années, au prorata, fallait augmenter de toute manière les salaires, que les conditions, ben, ça s'est pas revu comme on croyait que ça avait à se revoir. Puis même beaucoup d'enseignants tapent sur la tête de leur syndicat en ce moment en disant « Vous nous avez pas représenté pour ce qu'on disait. Là. On voulait de meilleures conditions de travail et pour les enfants. » Puis là, on se fait taper sur la tête. Et encore par le gouvernement hier, je trouve ça grossier et je trouve effectivement que c'est se tirer dans le pied par rapport à quelqu'un qui est écoute ça, qui veut devenir enseignant, qui est dans son métier, puis qui fait « Même le budget déficitaire, c'est sur notre tête.
Ouais, » Mais c'est du grand théâtre, Antonine. Tu sais, ils nous annoncent le budget déficitaire, mais il n'y aura pas d'augmentation d'impôts prochainement.
On ne revient pas à l'austérité.
On ne reviendra pas à l'austérité. Mm-hmm. On va continuer de faire avec ce qu'on a, en espoir peut-être un jour de s'en sortir. Mais là, on dit qu'on n'a plus d'argent nécessairement, que ce ne sera pas facile. On est en négociation avec la FIC, qui, elle, dénonce le chantage du gouvernement. Et avec raison. Mais
ben oui.
C'est comme si les Québécois, on était trop caves pour oublier le 4 milliards à Northvolt. C'est comme si les Québécois, on était trop caves pour voir les millions de dollars qui tombent à Québec pour un club de hockey qui vient de l'extérieur. C'est comme si on était trop caves pour tous les millions qui tombent ou encore l'augmentation de salaire des députés à l'Assemblée nationale. C'est comme si on n'avait pas de mémoire puis que le gouvernement le savait puis ils se disent, ben, ils s'en rappelleront pas. Fait qu'on va juste continuer de dire.
On va juste avancer
et
qu'on va mettre ça en arrière.
Mais là, c'était tellement grossier. J'ai l'impression que les gens le voient.
Ben oui.
J'ai l'impression que cette fois-ci.
J'aimerais être dans la tête des gens qui ont organisé le point de presse pour savoir si c'était vraiment ça le message qu'on voulait envoyer hier. Je suis pas certaine.
Ou c'est quelqu'un qui a dévié puis qui est allé.
Ouais, tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est arrivé comme à la 6-7e question là, du point de presse, là, cette affaire-là de budget déficitaire. Parce qu'effectivement, c'est un peu grossier comme lien à faire. On est tous assez intelligents, effectivement, pour savoir qu'un budget, c'est un ensemble de choix.
Ben oui, exact.
Mais on le savait que les ententes allaient coûter cher. Puis on le sait qu'à un moment donné, c'est pas infini les besoins. Mais on peut pas mettre le déficit seulement sur le dos des enseignants. Par contre, je pense pas que c'était l'objectif en arrière, mais c'est ce qui est un peu ressorti maladroitement hier. Puis tu as parlé de la FIC. C'est sûr qu'elles doivent être vraiment fâchées de cette sortie-là en fin de semaine parce que les négociations du côté de la santé, ce n'est pas terminé. Puis là, on vient dire aux gens, bien, on n'a plus d'argent, ça va être le déficit au secours. Puis elles n'ont pas terminé de négocier. Donc, c'est sûr que ça vient jouer dans les négociations. Puis le gouvernement, généralement, se garde une petite gêne de ce côté-là. Les syndicats sont plus vocaux que le gouvernement pour toutes sortes de raisons. Donc, elle ne doit pas être très contente présentement.
Mais là, je vais te poser une question, puis je ne sais pas si tu vas avoir la réponse ou peut-être que tu trouves que ma question est trop dure dans le sens où je vais avec un jugement. Mais à quel point ces gens-là nous prennent pour des cons? Nous expliquent qu'il n'y a plus d'argent, mais qu'on sait très bien qu'ils sont encore en négociation. Je te parlais du 4 milliards de Northvolt, mais il y a le 70 millions aussi qu'on a donné à Taiga Motors, qui est encore une fois déficitaire. On a aboli des postes dans les dernières semaines sans le dire à personne. Le gouvernement du Québec, sur les 70 millions qu'on a donné en subvention au Canada, il y en a 55 qui appartiennent au gouvernement du Québec. Un 6 millions de prêts pardonnables qu'on verra jamais, d'ailleurs, anyway. Et le reste, ça va être le gouvernement du Canada qui va le payer. C'est 55 millions de l'argent des Québécois. Puis on dit, hey, pour les infirmières, on n'a pas d'argent. Désolé.
Oui, c'est ça. En fait, c'est que les décisions qui ont été prises il y a plusieurs années, maintenant, on les regarde avec notre regard d'aujourd'hui quand on sait que les fonds publics, c'est plus difficile, qu'on a eu la mise à jour. Puis là, c'est là qu'on revisite les décisions du passé. On peut parler du salaire des députés, on peut parler effectivement la décision de subventionner les matchs de hockey des Kings. Puis là, tout à coup, ces décisions-là nous semblent un peu ridicules. J'ai vu aussi beaucoup de gens dire ben, il y a eu des baisses d'impôts aussi qui ont été faites. Est-ce que c'était le bon choix de faire des baisses d'impôts?
Les chèques qui ont été envoyés.
Les chèques qui ont été envoyés, etc.
C'est encore nous prendre un peu pour des idiots quand on voit les impacts sur l'inflation que ça a eu. Des fois, je me demande, Colin, c'est vraiment de la petite politique là, ce qu'on a vu dans les derniers mois.
Puis en même temps, c'est facile, puis je m'inclus là-dedans, mais de regarder ça avec nos yeux d'aujourd'hui, puis de se dire, parce qu'on ne le savait pas comment elles allaient finir aussi, ces ententes-là. À un moment donné, c'est quand même périlleux pour un gouvernement de faire un budget. Il y a eu la mise à jour économique qui a été faite, puis le ministre des Finances se budgète en essayant de deviner qu'est-ce que ça va être dans les ententes.
Ça, je trouve ça le fun. En plus, on n'est pas d'accord, mais par rapport à la projection de ce qui allait arriver financièrement et économiquement, c'était d'une évidence crasse quand tu as des personnes, mettons, qualifiées autour de toi qui peuvent analyser ça, puis de se dire, tu sais, de renvoyer de l'argent pour faire rouler l'économie en plus. Puis là, je parle vraiment de ce qu'on vit économiquement en ce moment. C'était la meilleure manière de se creuser un trou, de voir ce qui se passe dans l'épicerie, de voir ce qui se passe dans plusieurs secteurs où on n'a pas fait baisser les prix parce qu'on roulait encore trop dans l'économie, puis il y avait encore trop un pouvoir d'achat auprès des gens. Puis je sais que c'est cruel de le dire, mais ça, pour moi, c'est encore un point que je m'explique mal au niveau du gouvernement et que je trouve vraiment, vraiment politiquement qu'une raison de se faire réélire et de brouiller un peu les cartes, ça me dérange.
En tout cas, peut-être qu'ils ont mal vu venir certaines choses, effectivement. Je pense pas qu'ils prennent les gens pour des cons. Je pense qu'ils savent que ça va être difficile, l'exercice budgétaire. Puis je pense que ça explique aussi pourquoi ils commencent déjà à préparer le terrain. Mmh. Des fois, je me demande s'ils mettent pas ça pire pour qu'on trouve ça pas si pire,
moins pire que ça.
Au budget, mais on verra ça. Mais une chose est sûre, ce que nous, on a vu venir, c'est que les décisions de subventionner des choses qui n'avaient pas lieu d'être ou la hausse de salaire des députés et tout ça, on le savait bien que l'exercice budgétaire serait tellement difficile.
Puis,
par la suite.
Je dois être conséquent, Antonine. La hausse des salaires pour les députés, je n'étais pas contre. C'est le 30 000 d'une shot que j'étais contre. Tu sais, qui peut avoir un 30 % d'augmentation?
Suite de même.
Suite comme ça, puis quel impact ça peut avoir sur la société et quand toi, t'es en train de négocier avec des syndicats?
Exactement. Puis en plus, le timing, la décision, moi, je pense qu'il s'était dit, on va faire ça le plus loin possible la campagne électorale. Mais ça mettait tellement mal la table pour les négociations avec le secteur public. Mais je pense que ce qui englobe le tout, c'est de dire que ce gouvernement-là était habitué à plus de facilité, je le mets entre guillemets. Ouais. C'est jamais facile, la politique. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. C'est un bon point. Et qui ont une grande difficulté à s'adapter au nouveau paradigme financier, économique, le climat aussi, et à des taux de popularité qui sont plus bas. Ils sont beaucoup plus challengés qu'ils l'étaient.
Puis est-ce qu'ils étaient prêts? Hey, c'est un bon point, ça.
On écoute François Legault qui parle du retour sur l'austérité.
Non, ce que j'ai dit, c'est que ça veut dire une augmentation du déficit, une augmentation importante du déficit. Donc, il n'y aura pas d'austérité, il n'y aura pas de coupure de services, puis il n'y aura pas d'augmentation des impôts.
Comment les contribuables vont sentir, en fait, ce déficit?
Bien, écoutez, là, je ne veux pas dévoiler ce qu'il y aura dans le budget, mais ça peut être une remise en question de la durée pour retrouver l'équilibre budgétaire, mais ça va tout être dans le prochain budget qui va être déposé. Mais je vais assurer tout le monde, là, il n'est pas question de couper quelques services que ce soit, puis il n'est pas question d'augmenter les impôts.
Okay. En d'autres mots, on va juste repousser la dette plus loin, là. On va mettre ça sur la carte de crédit.
C'est ça les choix que tu as. Dans le fond, c'est que tu peux augmenter tes revenus, tu peux couper dans tes dépenses ou sinon tu peux accepter d'être déficitaire pendant quelques années. Mm-hmm. Eux, ils ont fait le troisième choix. Si le gouvernement disait bien, on remonte les impôts, ça serait d'admettre que c'était une mauvaise chose. Et ça, c'était au cœur des engagements de la CAQ, là, puis de François Legault, de baisser les taxes et les impôts pour les Québécois. Et de l'autre côté, on est dans un moment économique et social où s'il devait avoir des coupures de services, tu sais, les familles ont de la difficulté à arriver. On le sait, on a une crise de l'itinérance, on a une crise des opioïdes, on a une crise du logement. Le timing serait vraiment, à mon avis, puis là, il y a toutes sortes d'idéologies là-dessus, mais pour moi, ce serait catastrophique. Et pour le gouvernement, ça deviendrait très rapidement catastrophique.
Pas dans la perception, puis dans le fait de se faire... Mais là, je réfléchis pendant qu'on parle, puis mon cerveau droit, Yannick, ça, pendant que mon gauche était avec vous autres, là. Est-ce que c'est bénéfique aussi pour le gouvernement aux prochaines élections, admettons qu'ils ne sont pas réélus, de prendre cette décision de neutralité en ce moment, de dire, ben on va juste être déficitaire, puis on va mettre ça sur sa carte de crédit. Est-ce que stratégiquement, s'ils perdent aux prochaines élections, le rebound qu'un autre parti pourrait avoir, mettons, de revenir contre la CAQ sera moins grand?
Mais ça va être intéressant de voir comment les autres partis vont se positionner. Je pense pas qu'un Québec solidaire est bien affolé par des déficits et tout ça, puis ils vont dire qu'on aurait dû remonter les impôts probablement, fait qu'il va y avoir un positionnement là-dessus. Moi, j'ai hâte de voir pour le Parti libéral, parce que pour moi, le salut du Parti libéral se trouve au centre-droit. Toutes les parties en ce moment sont au centre-gauche et à gauche un petit peu plus, selon le parti, à l'Assemblée nationale présentement. Donc, le terrain pour le Parti libéral et un Parti libéral pour lequel il y aurait un nouveau chef éventuellement un jour s'il se décide à faire une course à la direction, puis c'est plus qu'un candidat, ça va être au centre droit. Et peut-être que c'est cet aspect de rigueur budgétaire qui va revenir à l'avant-plan. Peut-être pas de l'austérité, c'est comme un gros mot.
Mais on veut peut-être pas servir du côté de la CAQ, tu sais, un plateau de fruits frais à se dire aller piger là-dedans pour ceux qui vont vouloir redresser l'économie. Fait qu'on va juste être neutre.
Ben, c'est ça que les libéraux, c'est ça qui est arrivé avec les libéraux de Philippe Couillard. Ils ont fait toute la job de faire de l'austérité, d'aller chercher des marges budgétaires. Ils après ça, la CAQ est arrivée au pouvoir. Les coffres étaient pleins. Ils ont distribué plein de cadeaux.
Ils ont eu l'air extrêmement.
Mais je pense que tu vois trop loin, Pascal. Je pense pas que.
Eux ils vont pas là.
Non, je penserais pas.
Eux vont pas là.
Je pense que là, il essaie de survivre à l'exercice budgétaire qui ne sera pas facile et il porte plusieurs boulets de décisions du passé présentement qui deviennent de plus en plus lourds.
Tu sais, je comprends ta vision des choses par rapport à l'Assemblée nationale. Tu as été, t'avais deux mains dans Poutine, tu étais à l'Assemblée nationale, mais en tant que citoyen, en tant que payeur de taxes, on a toujours l'impression que l'Assemblée nationale nous prend pour des cons. C'est trois années de bonheur, puis une année où... C'est trois années de malheur, puis une année où on va avant donner l'élection. Des nananes avant l'élection. C'est tout le temps ça. On n'a pas de mémoire sur ce qui s'est passé. Le Nordvolt, 4 milliards de dollars. On a donné ça. Les augmentations de salaire aux députés, on a donné ça. Taiga Motors, sur 70 millions qu'on a donné en subvention, le Québec est responsable de 55. J'en oublie-tu? Le stade olympique, on va aller mettre un toit couvert sur quelque chose qui est désuet depuis des années. Ça va nous coûter 1 milliard. Puis ensuite, à l'intérieur du stade olympique, il va falloir qu'on développe plusieurs millions de dollars pour essayer d'aménager tout ça. D'ailleurs, c'était dans les nouvelles d'aujourd'hui. Puis on se fait dire que pour les infirmières... Ça passe serré.
Oui, c'est ça. C'est ce double discours parce que chacune des décisions que tu viens de mentionner, on pourrait faire une émission complète sur la pertinence de chacune de ces subventions-là. On veut développer le secteur batterie.
Je comprends, il y a
toutes sortes de tenants et aboutissants. C'est juste que là, si tu le mets en perspective avec ce qu'on dit au travers du secteur public, puis de leur faire porter l'odieux des déficits, ben non, je pense que ça passera pas. Ça ne marchera pas d'essayer de faire passer cette spin-là. Mais je ne suis toujours pas convaincue que c'était l'objectif du point de presse dans fin de semaine. Pour moi, l'objectif, c'était enfin de parler de ce qu'il y avait dans les ententes.
Puis, ils ont oublié aussi le projet de loi de Bernard Drinville, aussi intéressant sur le protecteur du citoyen, qui la presse plus ne l'avait pas oublié ce matin, lui. Là.
Effectivement.
On a manqué une bonne occasion. Là.
Ben non, c'est ça. Puis, tu sais, de faire aussi juste un point de presse 100% sur le positif en éducation, les aides à la classe qu'on a rajoutées, tous les assouplissements qui ont été négociés dans ces ententes-là, mais malheureusement, ça a comme un peu passé dans le dallo, alors que c'est probablement ce qui va avoir le plus d'impact à la suite de ces négociations-là avec le secteur public.
On va écouter Mme Lebel, si tu le veux bien, qui parle des négociations avec la FIC présentement.
Bien, écoutez, on va continuer à négocier. Vous savez, une entente, c'est la rencontre de deux volontés. Donc, il faut avoir la volonté de part et d'autre. Nous, on a démontré qu'on est capable de s'entendre. On vient de s'entendre avec 420 000 employés de l'État, qui est le Front commun. On va laisser les votes se dérouler pour conclure. On vient de s'entendre en éducation avec deux grands syndicats. Et on vous a expliqué qu'on avait mis sur la table beaucoup d'avancées parce qu'on avait obtenu aussi, de la part des syndicats, de l'ouverture sur la souplesse. Alors, je vais laisser les discussions se poursuivre aux tables, mais on va garder le même objectif avec la FIC qu'on a eu avec tous les autres syndicats du réseau public.
Elle semble positive là, quand même. Là. Est-ce que ça se règle? Est-ce que ça va se régler? C'est une autre histoire.
Oui, puis j'ai regardé un peu la réaction là, de la présidente de la FIC à la suite du point de presse. Évidemment qu'elle n'était pas contente, puis que c'était sûr qu'elle allait avoir un peu déchirage de chemise. Mais il y avait des messages que je trouvais un peu inquiétants. C'est notamment la souplesse demandée va réduire la qualité des soins. Là, il va falloir qu'on me fasse cette démonstration-là là, parce que je comprends pas comment envoyer, par exemple, des infirmières dans des régions qui en ont plus besoin. C'est quelque chose qui va baisser la qualité des soins à un moment donné. Puis surtout cette année, le gouvernement décide de ne plus faire affaire avec des agences d'infirmières privées. Ça va en prendre de la souplesse. Sinon, là, ça va avoir un impact sur la qualité des soins parce qu'il va y avoir des chiffres qui ne seront tout simplement pas remplis. Donc, le discours syndical sur la souplesse et la flexibilité, honnêtement, là-dessus, je dois dire que c'est avantage gouvernement à l'heure actuelle qui fait plus la démonstration du besoin qu'on aille, disons, briser certains carcans.
Mais ils n'auront pas le choix, le gouvernement, de faire appel à des agences privées pour combler. Ils n'auront pas le choix de le faire parce qu'il va y avoir des bris de service un peu partout.
Ben, c'est ou ça. Des gens fatigués qui s'en vont en burn-out, puis tu sais, ça va encore apporter des problématiques.
Regarde, si le public n'est pas capable d'offrir la souplesse, on va toujours être pris pour se tourner vers ces solutions-là. Mais moi, je n'achète pas ça, cette théorie, que ce que le gouvernement demande va baisser la qualité des soins. Je n'achète pas ça. Est-ce que ça va baisser le pouvoir syndical? Est-ce que oui, probablement. Mais là, dites-moi, là, sur le terrain, quel impact ça va avoir. Ça, c'est un message que j'ai vraiment moins aimé. Par contre, je les comprends d'être un petit peu fâchés du message d'en fin de semaine sur les déficits. C'est un lien qui aurait pas dû être fait, à mon avis.
Antonine Iacarini, est-ce qu'on te suit à nouveau cette semaine?
Oui, suivez mes médias sociaux pour savoir à quel moment je serai en débat sur Instagram et sur Twitter.
Elle met des petites photos.
Ben oui.
Des petites photos.
Puis on fait gagner des places pour notre prochain tête-à-tête. Là. On va mettre ça. Ça va être un concours.
Magasinage de chandelles aussi, je pense, Pascal, que tu devrais peut-être mettre ça à tirer là, pour une bonne cause.
Merci beaucoup. Midi 22, on vient.
Marceau, le